Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous, content de vous retrouver sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain. Et je suis actuellement dans nos studios de Rieux-Volvestre avec le président de la communauté de communes du Volvestre, Denis Turel. Denis Turel, bonjour.
Bonjour.
Denis Turel, être président d'une communauté de communes, c'est quoi ?
Question vaste, mais réponse simple, c'est avoir le souci des 32 communes du territoire et des 32 000 habitants du territoire. La communauté n'a de sens que parce qu'il y a des communes. Et elle n'a de sens que lorsqu'elle décide de faire des choses qu'une commune seule ne pourrait pas faire. C'est la définition même de la subsidiarité, et c'est le principe même démocratique, c'est-à-dire que la communauté n'est pas l'accumulation des intérêts particuliers de chaque commune, mais bien la définition d'un intérêt général pour lequel nous souhaitons mettre en commun nos forces, nos ressources et nos engagements.
C'est donc de la mutualisation.
Plus que de la mutualisation, c'est-à-dire mutualiser, c'est mettre des ressources en commun et essayer de les répartir. Là, on est vraiment sur la dimension de prise de compétences qui nous permettent de rendre un meilleur service public auprès de nos concitoyens, en sachant que le Volvestre, la plus grande commune Carbone, 6 000 habitants, la plus petite Mayola, 50, et avec des diversités très très fortes de population, en fonction que l'on habite sur les coteaux ou sur la plaine le long de la quatre voies. Donc il y a une nécessité d'intégrer une diversité de besoins vis-à-vis du territoire et de faire en sorte que chacun ait leur place. Et c'est ce qui donne à la communauté de communes cette place particulière qui est de ne pas remplacer les communes mais de les valoriser et de permettre de maintenir leur existence pour une raison, ce sont elles qui sont le plus proches de nos concitoyens.
Vous avez parlé tout à l'heure de compétences, c'est-à-dire que les communautés de communes ont les compétences qui sont obligatoires régaliennes et des compétences qui sont spécifiques. Quelles sont les compétences spécifiques que la communauté de communes du Volvestre a apprises ?
Alors, dans les compétences régaliennes et dans celles qu'on s'est données, vu qu'il fallait les voter, on a bien sûr la gestion de la collecte des déchets et de leur tri. On a bien sûr la question économique qui est une des compétences importantes. On a la petite enfance qui est une des compétences que la collectivité a prises. On a le tourisme. On a la GEMAPI qui nous a été imposée par l'État en 2017.
GEMAPI,
gestion des milieux aquatiques et des risques d'inondation, qui est le terme paraît gentil, mais le dessous de la compétence est pour beaucoup de nos concitoyens qui sont sur la vallée de la Lèze et la vallée de la Rize une question excessivement importante.
Si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce que on arrive à mi-mandat du travail qui a été effectué depuis 3 ans et on va se projeter ensuite sur les années futures. Pour nos auditeurs, la communauté de communes, depuis 3 ans, il s'est passé quoi ?
Beaucoup de choses, sans oublier que ce mandat a démarré avec une crise sanitaire. Il s'est poursuivi avec une crise énergétique et il s'accompagne d'une crise sociale. Finalement, on se rend compte que beaucoup de projets que nous voulions mettre en œuvre n'ont pas été mis en œuvre pour certains, non pas faute de temps, mais parce que ces trois crises nous ont amenés, et je vais vous en parler, à redéfinir et à réinterroger les décisions que nous avions commencé à prendre. On a défini en 2018-2019 un projet de territoire qui s'est mis en œuvre sur cette mandature, et son titre est porteur pour moi de beaucoup d'engagement de l'ensemble des élus de la communauté, vivre et travailler en Volvestre. On pourrait dire, quand on a dit ça, c'est une phrase bateau, mais si on veut éviter que nos concitoyens soient amenés dans des pendularités incessantes vers la métropole, il faut bien que habiter sur le territoire suppose que l'on puisse y travailler, ou en tout cas de manière majoritaire, qu'on ait au moins 2 habitants pour un emploi, ce qui serait l'idéal. Pour l'instant, le cadre du schéma de cohérence territoriale qui donne les orientations de l'habitat nous demande d'être plutôt à un emploi pour 3,5 habitants. Mmh. C'est insuffisant. Sinon, on va continuer à multiplier ces pendularités.
Premièrement, voilà. Et deuxièmement, avoir que des villes dortoirs avec plus aucune ville à l'intérieur.
Voilà, donc si on n'a pas d'emploi sur le territoire, que ce soit de l'emploi industriel, de l'emploi de service, de l'emploi commercial, de l'artisanat, toute la diversité, on va avoir le risque aussi que les populations vont s'agréger dans les pôles urbains les plus importants et non pas dans nos communes. Donc ça amène une réflexion qui est en cours, et je le fais dans ce sens-là, parce que à mon avis, c'est un des éléments fondamentaux de la fin de mandat, de la deuxième partie de mandat et du mandat suivant, c'est la question des mobilités et des intermodalités. C'est-à-dire cette question du déplacement, cette question de comment on arrive aussi à décarboner nos projets, donc à utiliser moins la voiture, comment on garantit aussi de la sécurité à travers ces mobilités. Je pense que ce soit la région, le département, les communautés, en tout cas notre communauté et les communes, on a ce souci aujourd'hui. Restent les budgets derrière pour y arriver, mais l'intention politique est fortement posée.
Parce que ça, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réaliser tout seul au niveau du Volvesque.
Non.
Évidemment, c'est de la communication et la relation avec les autres communautés de communes et les autres métropoles et administrations.
Bien sûr, et puis des financements surtout, parce qu'on n'a pas la compétence transport, vu que c'est la région qui l'a. Donc ça suppose d'avoir un travail très fort avec la région, qui a aussi la compétence transport scolaire, qui a la compétence sur le rail, donc la SNCF. Donc c'est une réflexion qui va nous amener à, de toute façon, réinterroger l'ensemble des financements publics pour converger vers l'idée que si nos concitoyens arrivent à pouvoir habiter sur le territoire et à y travailler, on va participer à une forme de désengorgement de la métropole et à une forme, on va dire, de solidarité des territoires. Notre Volvestre n'a pas vocation à être le vase d'expansion de la métropole.
C'est ça, être ce qu'on appelle le poumon vert aussi de la métropole,
voilà.
Où on n'a que les pâtures et les coteaux ici, et le travail sur Toulouse.
Oui, mais la métropole a besoin de notre eau, elle a besoin de nos habitants, elle a besoin de nos mètres carrés pour y mettre les entreprises à fort potentiel de hangar, donc qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc il y a eu aussi une réflexion sur le partage. On ne peut pas être que dépositaire des choses qu'on ne veut pas, y compris des habitants qu'on ne veut pas, et ensuite nous demander de financer la ligne à grande vitesse, qui va bénéficier plutôt aux métropolitains qu'à nos territoires.
Ce qui veut donc dire tout ça, c'est que ça remet en cause, entre guillemets, les modes de vie d'une façon profonde au niveau de nos fonctionnements individuels et qui a aussi une incidence, évidemment, sur l'environnement. De moins utiliser la voiture, par exemple, de rester plus sur place, mais en même temps, une modification de la structure de nos habitations.
On a un phénomène là, d'ampleur qui était nécessaire, c'est-à-dire moins imperméabiliser les sols, décarboner nos transports, renaturer nos espaces public, avoir un bilan carbone positif, moins consommé, on est tous d'accord. Sauf que, lorsqu'on explique à nos concitoyens les contraintes, on n'est pas tous d'accord. Si on veut moins artificialiser, il n'y a pas de mystère, on va devoir densifier. Et il y a quand même une forme de gentrification actuellement sur les territoires, que les gens veuillent bien avoir un terrain avec une vue sur les Pyrénées, mais ils ne veulent avoir personne à côté. Et donc là, on va être un peu embêté. Car si nos territoires se gentrifient et n'accueillent plus personne au titre de la qualité de vie, ben nos communes vont dépérir parce que ben s'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'école. S'il n'y a plus d'école, les villages se retrouvent en difficulté, les commerces n'y viennent plus. Donc il y a besoin d'avoir une réflexion sur comment on harmonise et comment on rend complémentaire ces obligations et ces nécessités, j'ai envie de dire, environnementales, et en même temps comment on accepte des contraintes qui relèvent de l'intérêt général et pas seulement de l'intérêt particulier. Et c'est des sujets qu'ont tous les maires et la communauté, quelles que soient les compétences que l'on aborde, que ce soit celles de l'emploi, de l'habitat, des déchets, etc., etc.
Et ça, c'est l'intérêt des communautés de communes, mettre en relation l'ensemble des élus sur chaque commune pour avoir une vision, j'allais dire, à 360 degrés d'un même territoire.
Tout à fait, et en même temps d'en partager une forme de solidarité territoriale qui est qu'en fonction des sujets, on a besoin de prendre ce qui va nous être commun et que l'on peut faire facilement et les diversités qu'il faut prendre en compte. Par exemple, nous avions décidé, et nous le ferons, de quitter sur la collecte des déchets le porte-à-porte qui est coûteux en bilan carbone, qui est coûteux en camion, qui est coûteux en coût social pour les agents qui le réalisent, pour aller vers des points d'apport volontaires. Tout le monde, en fait, et pour beaucoup, sont très satisfaits d'avoir du porte-à-porte. On met sa poubelle, un camion passe, elle est récupérée. Dans les centres-villes, beaucoup sont en attente de ne plus voir ces poubelles sur les trottoirs, mais mettre des points d'apport volontaires, on ne va pas pouvoir en mettre tous les 20 mètres. Donc, il y a une réflexion qui est en cours. Le choix politique que nous avions fait était de passer du tout porte-à-porte au tout point d'apport volontaire. La crise que nous avons connue nous a amené, en regardant ce qui se passe sur les territoires d'à côté, le fait que ce passage radical sans accompagnement et sans diversité produit une catastrophe inverse, c'est-à-dire que les gens ne trient plus et les gens rejettent leurs déchets sur des dépôts sauvages. Donc là, il y a un travail qui est mené actuellement et qui va être poursuivi avec chaque mairie, et on sera sûrement sur un mix entre porte-à-porte et point d'apport volontaire, pour savoir à quel endroit il est judicieux de mettre des points d'apport volontaire et à quel endroit il est judicieux de garder du porte-à-porte. Mais il faudra bien qu'à un moment donné, chacun fasse un petit bout du chemin, y compris nos concitoyens, pour accepter de se déplacer et d'y aller un peu. Le débat sur lequel nous n'irons pas pour l'instant, c'est la redevance incitative qui est de faire payer les personnes en fonction du déchet qu'ils produisent. Ça semble sur le papier juste, mais sauf qu'à l'arrivée, si c'est mal fait, on a le sentiment que l'on va payer un service plus cher pour un service de moindre qualité. Donc là, notre réflexion à nous, c'est de dire commençons pédagogiquement, depuis en plus le changement début 2023 du tri, et vous avez vu que dans nos poubelles, on ne met plus les mêmes choses entre le vrac, on va dire le bac gris et le bac jaune. Il y a quand même un vrai effort qui est fait de ce côté-là. Réussissons le pari de la collecte avant de revoir la question du financement. Le principe de base du financement à terme, c'est celui qui existe sur l'eau. On dit souvent en France, l'eau paye l'eau. C'est-à-dire tout ce qui est fait sur l'eau en termes d'investissement, réseau, de fonctionnement, collecte, compteur, doit payer le coût de l'eau. Ben, il faudra que sur le déchet demain, le déchet paye le déchet.
En 2024, les déchets organiques devront être séparés également.
Alors on va de plus en plus vers le biodéchet, ça c'est pour le particulier. Donc il y a celui qui pourra avoir un composteur sans aucun problème, il y a celui qui n'en aura pas. Il faudra récupérer ce biodéchet pour le valoriser. Parce que la grande évolution quand même depuis 20 ans sur le déchet, c'est plutôt que de l'enfouir ou de le brûler, c'est de le retraiter. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on sait à peu près retraiter tous les déchets. Il suffit juste d'avoir les chaînes de traitement appropriées. Donc la question du biodéchet va arriver. Mais derrière elle, si la communauté, notamment, mais pas seule, ne réfléchit pas à des unités de production, de méthanisation ou de compost pour le biodéchet, on aura beau le collecter, si c'est pour l'enfouir ou pour brûler le gaz qui va être produit comme ça, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est toute la chaîne qu'il faut revoir. C'est pas uniquement le petit bout, mais ça démarre du concitoyen et ça démarre de la capacité à transformer ce déchet en valorisation.
Cette réflexion au niveau d'un territoire avec une modification des comportements, on a parlé du transport, on a parlé de la gestion des déchets. En ce qui concerne la vie interne au village, la problématique d'avoir une vie de commerce, une vie de proximité, et avec l'apparition des petites villes de demain, des centres d'attraction locaux, si on peut le prendre comme ça.
Moi, je ne le dirais plus comme ça aujourd'hui, après l'expérience. C'est-à-dire qu'on a tous la volonté de faire vivre nos villages, mais il est évident que Carbonne ne va pas vivre de la même manière que la Hyter, la Trappe, Gouzins. Donc, il faut qu'on ait une intelligence sur le territoire. Comment on permet aujourd'hui à des villages de continuer à vivre, d'avoir une activité, une vie associative, si derrière, ils n'ont plus que des habitants sans service? Donc, c'est là où il y a une vraie réflexion. Et cette question de la solidarité d'un territoire, c'est qu'on ne peut pas dire à un endroit, il y a les habitants, et à l'autre, il y a les emplois. Sinon, ça ne marche pas non plus. Qui va aller habiter sur les coteaux s'il n'y a pas de transport pour atteindre la gare en pôle d'échange multimodal? Donc, la réflexion que nous avons engagée avec l'ensemble des élus de la communauté, pour faire en sorte que, dans notre Volvestre, en fonction des territoires et en fonction des communes, chacun trouve sa place au-delà des compétences réglementaires dans l'évolution, et en laissant bien sûr à chaque maire, qui ont été élus directement par le suffrage universel, la capacité à porter les projets pour lesquels ils ont été élus. Et là, la communauté a un projet qui était de renforcer le rôle des maires. C'est pour cela que dans notre exécutif sur ce mandat, tous les maires ont une voix au bureau communautaire, quel que soit leur nombre d'habitants. C'était un choix que j'ai souhaité pour faire en sorte qu'on dépasse l'idée des communes plus importantes ou des communes moins importantes. Il y a des habitants et ils ont droit à voir la diversité de services sur ce territoire.
On a parlé également de l'attractivité économique du territoire. Quels sont les atouts du Volvestre?
Alors, si on écoute les chefs d'entreprise, notamment sur nos zones d'activité, il y a trois leviers qui font l'attrait du territoire. La 64, avec les sorties d'autoroute, c'est-à-dire la capacité à rapidement mettre du produit sur la route ou sur le train pour qu'il aille dans les points de distribution. Il y a la question du numérique, qui est une question aussi importante. Et il y a la question du coût du foncier sur l'installation. On peut dire aujourd'hui que toutes nos zones d'activité sont pratiquement pleines, donc on doit continuer à réfléchir à l'endroit où on les positionne, mais on voit bien que là aussi on se retrouve dans une forme de schizophrénie momentanée, je vous rassure. On ne veut pas que notre A64 ressemble à la sortie de Toulouse, avec des hangars, des entrepôts, des entreprises qui s'enchaînent les unes aux autres sur plusieurs kilomètres, et en même temps, quand on demande aux entreprises où elles veulent s'installer, elles veulent s'installer le long de l'A64. Et donc, comment satisfaire les entreprises? Comment leur proposer d'autres terrains qui sont peut-être pas sur cet axe-là, qui répondent à leurs besoins, à leurs attentes? Voilà, c'est un peu l'enjeu des années à venir, d'arriver à amener un peu de diversité dans les installations d'entreprise. On voit que certaines sont très heureuses de s'installer à Rieux, à Montesquieu, mais on a quand même un enjeu qui est que tout le monde se concentre quand même majoritairement sur la 64.
Montesquieu en particulier, Montbrun-Bocage également, sont très très éloignés de la 64.
Oui, mais eux, ils ont d'autres atouts. Voilà, il y a la question d'une forme de production locale. La communauté s'est engagée sur sa compétence économique dans un plan alimentaire de territoire, c'est-à-dire faire en sorte que nos producteurs, que ce soit sur la partie maraîchère, alimentaire, bovin, ovin, puissent se redévelopper pour réalimenter en circuit court nos écoles, nos maisons de retraite, toute la restauration collective qui peut exister. Ce travail est en cours, on commence à en voir les bénéfices et on voit que nos concitoyens sont sensibles à cette idée de consommer plus en proximité. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de commerce ou que les commerces de proximité ne marchent pas, mais vont dans les grandes surfaces faire leurs courses. Un commerçant s'installe s'ils vendent son produit, sinon il ne vient pas. Aujourd'hui, il ne faut pas opposer les deux. Il faut que les deux puissent se développer et exister. Celui qui a, comme toujours, la décision, le concitoyen vote, et c'est lui qui achète aussi.
Vous parlez du projet alimentaire de territoire. On en a parlé un petit peu sur cette antenne avec les personnes intéressées également. S'il y a des agriculteurs ou des producteurs, il faut aussi qu'il y ait des transformateurs pour que les produits puissent être sur le territoire et distribués sur le territoire.
On est d'accord, c'est toute la chaîne, hein. On l'a dit tout à l'heure pour la question de l'emploi, on l'a dit sur la question de l'économie, on pourra le dire sur la question de l'eau et sur la question du déchet. Si on ne retravaille pas toute la chaîne qui est production, transformation, distribution, stockage, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, on sait que si on doit produire, on va dire des légumes en maraîchage, et qu'ils doivent partir aux mines, à Toulouse, au marché d'intérêt national, pour revenir sur nos marchés après, en bilan carbone, c'est catastrophique. Le département travaille là-dessus, on y travaille avec eux, c'est un peu l'enjeu du PAT, il faut qu'il y ait la transformation, que ce soit maraîchère ou sur les viandes, donc avec des unités de proximité là aussi. Donc c'est tout ça, c'est tout ce qu'on a pu abandonner à un moment donné, considérant que c'était plus l'enjeu de nos territoires, de réinvestir les territoires de tous ces emplois du quotidien de proximité qui nous permettent après derrière de reproduire localement.
Quelles sont les grandes ambitions, les projets qu'il reste à mener sur les trois prochaines années, les deux prochaines années et demie de cette mandature?
Alors dans les grandes ambitions et les grands projets qui, pour le coup, là sont vraiment dans le quotidien de nos concitoyens, je parlais des mobilités, qui va être un enjeu très très fort de la communauté, ça c'est évident. Derrière les mobilités, il y a le projet d'intermodalité sur la gare de Carbone, qui va rentrer en travaux très prochainement. Et je rappelle que la gare de Carbone, seuls 25% des gens qui la fréquentent sont de Carbone, donc c'est vraiment un projet d'intérêt communautaire, c'est pour ça qu'il a été retenu et soutenu fortement par le conseil régional, qui va nous amener à augmenter le nombre de places de parking, qui va nous amener à augmenter les points de recharge pour les véhicules. Donc on a un enjeu fort sur cette zone pour en faire aussi un point attractif par rapport aux entreprises.
Et la SNCF va jouer le jeu également?
Moi, je n'ai pas la main sur la SNCF, c'est Carole Delga et la région qui essaient de l'avoir. Et si les trains déjà marchaient, ce serait pas mal. On ferait un grand pas. Il y a un énorme travail qui doit être fait sur le réseau, sur la ligne. On ne peut pas juste demander à nos concitoyens, ils l'ont vu sur la taxe foncière cette année, payer une ligne pour la ligne à grande vitesse, Toulouse-Paris, qui est nécessaire à l'évidence. Mais si derrière, on nous demande de contribuer et qu'on n'aide pas nos concitoyens à aller jusqu'à Toulouse, je pense que le financement restera incompréhensible. Deuxième sujet, j'en ai parlé rapidement, mais c'est effectivement tout l'enjeu de la collecte et du tri du déchet, qui est un enjeu très très fort, sur lequel nous allons devoir mettre en œuvre très rapidement les préconisations dans les modes de collecte, plus après les modes de retraitement et de valorisation du déchet. Troisième enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est la question de l'emploi. Je reste convaincu que cette question de l'emploi, en lien avec la question sociale au sens large, c'est-à-dire aujourd'hui, comment on informe les gens sur leurs droits ou sur les aides dont ils peuvent bénéficier. On a les maisons de proximité avec le département, on a la compétence France Service, donc on a le projet de rendre cette compétence France Service mobile sur toutes les communes pour éviter à nos concitoyens de se déplacer sur les pôles actuellement que sont Carbone, Montesquieu et Saint-Sulpice. Donc ça, c'est un enjeu important parce qu'on se rend compte que malheureusement, en 2023, il n'y a toujours pas une égalité de traitement sur le service public.
Ce qui veut donc dire, pour l'emploi en particulier, ça va être des aides à la création d'entreprises ou à l'installation d'entreprises ?
Alors ça, c'est plutôt la région qui est en compétence là-dessus. Nous, on aide aujourd'hui déjà sur l'immobilier d'entreprise, ce qui est un point important. Mais c'est surtout de travailler avec les entreprises sur leurs besoins à 2 ans, 3 ans, 5 ans, et de travailler avec les partenaires du service public, mission locale, Pôle emploi, pour faire en sorte de pouvoir accompagner les jeunes ou les moins jeunes vers les emplois qui sont disponibles. Et il y en a des emplois disponibles dans nos territoires. Et permettre aussi aux gens d'en changer s'ils le souhaitent. Donc ça, ce n'est pas uniquement en disant « il y a un registre avec des offres d'emploi » que ça va fonctionner. Il y a tout un travail où les entreprises elles-mêmes doivent peut-être modifier leur façon de recruter. Ça, on le fait, mais de mon point de vue, insuffisamment. On doit être un petit peu plus proactif sur le sujet. Voilà les grands enjeux, sans rentrer trop dans le détail. Et le dernier, mais qui est l'enjeu aussi des communes, c'est la question de l'habitat. Tout à l'heure, je parlais du risque de gentrification. Il a une conséquence terrible. C'est que nos habitants ne peuvent plus se loger dans nos territoires.
D'ailleurs, on voit de plus en plus de jeunes qui habitent encore chez leurs parents, faute de trouver du logement ou de trouver un endroit pour habiter.
Oui, ou des gens qui ont un logement qui vieillissent et qui en trouvent un autre, ils n'en trouvent pas. Donc, on a un peu la même crise que les communes touristiques, c'est-à-dire que les gens qui habitent là ne peuvent plus évoluer dans le logement. Ça pose quand même une sacrée question. Et donc, là, on a un plan local de l'habitat sur lequel on est en compétence. Il y a toute une réflexion pour aller aussi sur la prise en compte des seniors, des gens qui vieillissent. Et heureusement, ce n'est pas le moment d'aller en EHPAD. Comment on permet à ces habitants d'habiter plutôt dans nos centres-bourgs, de pouvoir y faire leurs courses, de pouvoir y vivre ? Ça suppose qu'il y ait de l'habitat adapté, accessible, et pas seulement du lotissement ou des choses comme ça. Ça, c'est un enjeu très fort. Mais pas uniquement dans les grandes, dans les villes de plus de 2000 habitants. Il faut qu'il y en ait dans les communes plus petites. Donc, et vous voyez bien que tout est lié, que la question de la mobilité soit là aussi intégrée à travers le transport à domicile ou le transport d'intérêt local.
Ça sera ma dernière question. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des communes de presque 6000 habitants et des communes de 50 habitants. Comment ça se passe, ces prises de décision ? C'est chacun amène son sujet sur la table ? Il y a des sujets qui sont prioritaires ?
Alors, j'ai la chance de présider une communauté de communes où, je pense, les 32 maires, avec des différences, partagent à peu près le même intérêt et on se parle intelligemment. Donc, il n'y a pas de conflit sur, ou de tension sur les prises de décision. On a avant tout des commissions qui fonctionnent. Donc, sur chaque compétence, il y a un vice-président à la communauté qui a en charge une commission. Et donc, tous les sujets passent par ces commissions. Et ensuite, elles sont mises au débat avec les maires. Et ça suppose beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexion, et ensuite, bien sûr, c'est le conseil communautaire qui, lui, est de 57 membres, qui est toujours décisionnaire. Et vous me posiez la question en début, quel est le rôle d'un président ? Ben, sa première mission, c'est d'exécuter les décisions du conseil communautaire. Pour cela, il y a une administration de qualité qui travaille sur l'ensemble de ces points. À la différence d'une commune, on n'est pas élu directement au suffrage universel, mais on est quand même élu par l'ensemble du conseil communautaire. Donc, à l'arrivée, c'est bien la politique que chaque maire mène dans son conseil sur l'intercommunalité, qui fait la qualité de l'intercommunalité. Il ne faut pas que ce soit comme l'Europe, où on a l'impression qu'à chaque fois, quand on parle interco, c'est le truc qui est très loin et qui prend les décisions qui ne nous vont pas.
Chaque maire dans son village travaille à la fois dans son village et pour l'intérêt de la communauté de communes.
Exactement. Les maires travaillent.
Denis Turel, merci beaucoup, président de la communauté de communes du Volvestre. Merci d'être venu sur Radio Galaxie.
Merci à vous.
À bientôt.
À très bientôt, au revoir.
À Carbonne et sa région, on écoute Radio Galaxie sur le 98.5 FM.